Bienvenue dans France Bleu Soir, la France en marche vers la transition écologique. On ne pourra plus acheter de voitures essence ou diesel à partir de 2040. C'est Nicolas Hulot qui l'annonce. La mesure peut être difficile à comprendre. Alors Xavier Demagny nous dira si c'est bien réaliste tout ça. Les migrants continuent de se heurter aux portes de l'Europe, réunis aujourd'hui des 28 ministres de l'Intérieur. Et à Paris, la maire Anne Hidalgo propose une loi pour mieux répartir les réfugiés sur le territoire français. On verra ça avec vous, Mathilde Chouin. L'avocat de Muriel Boll dit que sa cliente a entamé une grève de la faim. Cela dit, l'administration pénitentiaire relativise. On fera le point avec Anne Pinkson-Ducel à Dijon. Le Tour de France, victoire de Marcel Kittel, la deuxième depuis le départ. Mais pas de changement au général, Froome est toujours en jaune. Et puis, dernière journée d'école demain pour des millions de petits Français. Beaucoup vont partir avec un cadeau pour la maîtresse dans le cartable. Et c'est un commerce qui marche, on ira à Mont-de-Marsan.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Frédéric Dorel.
En 2050, la France devra être devenue un pays neutre en émissions de carbone. Autant de gaz à effet de serre absorbés par les champs et les forêts que de gaz à effet de serre produits par les transports et les usines. C'est la feuille de route sur laquelle se cale le gouvernement. Et comme ce sont les transports les plus gros pollueurs, le ministre de la Transition écologique nous avertit, on ne pourra plus acheter de voitures diesel ou essence à partir de 2040 en France. Nicolas Hulot.
Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Je note, comme d'un fait exprès, que ce matin, un constructeur automobile européen vient d'annoncer qu'à dater, si je ne me trompe pas, 2019, il n'aura que sur le marché que des véhicules électriques.
Alors le constructeur dont parle Nicolas Hulot, c'est Volvo, désormais chinois. Volvo dit qu'il ne vendra plus que des véhicules électriques en 2019. Apparemment, l'idée donc est dans l'air. En revanche, est-ce que les Français sont prêts ? Eux, Damien Robin est allé poser la question à Auxerre et c'est loin d'être évident.
Non mais c'est n'importe quoi, on prend comment pour aller au boulot après ? Pour moi l'électrique, non. Si on va avec sa voiture pour se déplacer, on va se brancher où ? S'il faut la laisser à 3 km et puis faire 3 km à pied, ça vaut pas le coup.
Je trouve que c'est un petit peu irréaliste de la façon où on n'a pas encore compris le système électrique complètement. Je me demande comment il va faire.
Ça se fera jamais. Quand on voit déjà l'argent qu'on a pour les Français, ils ont déjà pas assez pour acheter déjà des nouveaux véhicules. Alors si en plus de ça on doit changer carrément le véhicule, c'est pas possible. Faut changer le moteur, revenir soit en électrique, soit au gaz, c'est pas possible, c'est etc. jamais.
J'ai entendu ça dans la voiture parce que j'arrive de Paris avec ma voiture essence que je viens de changer parce que j'avais une diesel avant. Moi je pensais qu'on allait éliminer les véhicules diesel, mais surtout pas les véhicules essence. Et là j'ai pas trop compris.
Alors pas d'inquiétude si vous êtes dans le cas de cette dame, on parle de 2040, c'est dans 23 ans et on parle de ne plus vendre de voitures diesel ou essence en 2040. Les anciennes pourront encore rouler. Cela dit, Xavier Demagny, tous ces automobilistes disent qu'aujourd'hui la transition écologique est très loin. Mmh. Alors quel est le niveau du marché électrique ? Est-ce qu'on sera prêt en France dans 23 ans ?
Alors même si c'est difficile de prévoir l'avenir, 23 ans finalement c'est pas si loin. Une certitude, en tout cas, on va tous devoir faire un gros effort individuel si on veut atteindre cet objectif. Un objectif ambitieux, reconnaît d'ailleurs Nicolas Hulot.
Oui, parce que pour l'instant, les véhicules tout électriques, ça représente quoi ?
Tout simplement, moins d'une voiture vendue sur 100 en France, tout confondu, que ce soit des voitures neuves ou d'occasion.
C'est pas beaucoup. Et les constructeurs français, ils sont prêts à relever le défi ?
Eh bien, ils sont plusieurs à y travailler. Sortie prévue chez Peugeot et Citroën d'ici 2-3 ans. Surtout des hybrides. Hein. Mais c'est surtout Renault qui est en avance avec sa voiture phare, la Zoé, déclinée en utilitaire notamment. En fait, ce qui bloque, ce sont les nombreux obstacles à l'adoption massive de ces voitures électriques.
Alors, dites-nous lesquelles.
D'abord, les infrastructures. On ne sait pas encore vraiment comment et où recharger ces voitures. Il y a aussi l'autonomie des batteries. Il faut que ça dure un petit peu. Et aussi la rapidité de charge. Il faut aujourd'hui plusieurs dizaines de minutes contre, on le fait tous, hein, 3-4 minutes pour un simple plein d'essence.
Et puis, c'est aussi encore un peu cher.
Oui, il faut rendre ces voitures plus accessibles. C'est un enjeu technologique majeur, arriver à des voitures à 20-25 000 euros en moyenne.
Chez nos voisins européens, ça se fait ? Ça donne quelque chose ?
Oui, j'ai un exemple à vous donner. Celui de la Norvège, ça marche très bien. Le mois dernier, c'était presque un tiers des nouvelles immatriculations. Tout ça grâce à des mesures très incitatives. Il faut le souligner, des aides à l'achat, suppression de la TVA et puis la gratuité aussi des places de parking, par exemple. Leur objectif aux Norvégiens, c'est fin des ventes de voitures essence ou diesel d'ici 8 ans.
Ah oui, c'est bien avant nous ça. Mm-hmm. Merci Xavier Demany. Autre mesure pour faire de la France un exemple sur le climat, Nicolas Hulot annonce une prime pour aider les ménages modestes à se débarrasser des véhicules les plus vieux et donc les plus polluants. Pas de chiffres, mais pour l'Observatoire de l'automobile, ça va dans le bon sens. Les migrants arrivent toujours plus nombreux par la Méditerranée. Plus de 100 000 depuis le début de cette année et plus de 2200 morts aussi. Ça fait 12 par jour. Pour faire face, une réunion d'urgence avait lieu aujourd'hui en Estonie avec tous les ministres de l'Intérieur de l'Union. Mathilde Chouin, est-ce qu'il en est sorti quelque chose?
Pas grand-chose. Les 28 ministres de l'Intérieur apportent leur soutien au plan d'action présenté par la Commission. Un plan pour venir en aide en urgence à l'Italie. La situation sur place les préoccupe tous. C'est écrit noir sur blanc. Mais concrètement, personne ne veut de ces migrants. Les 28 viennent de se mettre d'accord sur deux points, le renforcement de l'aide à la Libye et l'écriture d'un code de conduite pour les associations humanitaires.
Pas grand-chose donc pour l'Italie, qui relève même que certains points n'ont pas été évoqués.
Comme l'idée de répartir les migrants secourus dans les ports d'autres États membres, la France et l'Allemagne le disent déjà, elles ne sont pas pour.
Oui, c'est toujours aussi compliqué de se mettre d'accord à 28, surtout sur un sujet sensible. La prochaine échéance maintenant, Mathilde, c'est le 24 juillet à Tunis. Sur ce sujet. Et en attendant, en France aussi, on s'inquiète des conditions d'accueil de ces réfugiés.
À Paris particulièrement, Anne Hidalgo vient d'envoyer des pistes de travail aux parlementaires et au gouvernement pour mettre à l'abri les migrants qui affluent vers la capitale.
Et c'est un document tout prêt, hein, clé en main.
Une quinzaine de pages où elle propose notamment la hausse des moyens, la mise en place d'une agence dédiée pour faire face à cette situation intenable.
Elle demande aussi la création d'une loi pour favoriser l'accueil et l'intégration des migrants.
Pour une meilleure répartition de ces migrants, ils sont plus de 400 à arriver chaque semaine au centre de la Chapelle à Paris. Anne Hidalgo demande aux autres métropoles de créer leur centre et d'en accueillir eux aussi.
Et autre mesure, Anne Hidalgo propose une réforme du traitement des demandes d'asile. Merci Mathilde Chouin. La police des polices va enquêter sur un go-fast qui a tourné à la fusillade ce matin en région parisienne. La voiture qui contenait la drogue remontait du sud vers Paris. Le conducteur n'a pas voulu s'arrêter. Il a percuté deux policiers au niveau d'Arpajon dans l'Essonne. Les deux fonctionnaires sont blessés. Et puis la voiture s'est retrouvée coincée par un bouchon sur la Nationale 20. Les policiers ont alors tiré une douzaine de coups de feu, malgré le risque de blesser d'autres automobilistes. Ils ont fini par interpeller le trafiquant présumé, mais l'enquête devra dire s'il y avait légitime défense. Muriel Boll en grève de la faim, la belle-sœur de Bernard Laroche, dit par son avocat qu'elle vit un enfer en prison. Maître Ballorin affirme en effet que les autres détenus, persuadés qu'elle est responsable de la mort du petit Grégory en 84, l'insultent et la harcèlent constamment. Anne Pinkson-Ducel.
Oui, à la prison de Dijon, on a appris sa grève de la faim par la presse. Alors normalement, ça demande quand même une organisation avec la direction et un médecin de l'unité sanitaire. Son avocat, en tout cas, estime qu'elle est déterminée. Muriel Boll est à l'isolement depuis le début de sa détention. C'est ce qui se passe pour tous les détenus médiatiques. Elle a donc les mêmes droits que les autres prisonniers, les promenades, les activités. Mais toujours d'après son avocat, eh bien, elle n'ose pas sortir de sa cellule parce qu'à chaque fois, c'est effectivement une pluie d'insultes et de menaces de mort. Une source pénitentiaire relativise ces insultes. Elles existeraient aussi en milieu ouvert, dans son village par exemple. En tout cas, les avocats veulent en finir avec la détention. Ils lancent donc un appel au diocèse, aux congrégations de Côte d'Or. Si quelqu'un veut bien accueillir Muriel Boll, elle pourrait peut-être être en liberté sous contrôle judiciaire.
Merci Anne Pinkson-Ducel, France Bleu Bourgogne pour France Bleu Soir. L'avocat de Muriel Boll demande aussi une confrontation avec le cousin qui a témoigné contre elle au plus vite, dit-il. 8 voyageurs blessés dans le métro parisien cet après-midi. Des câbles de chantier sont tombés sur le quai à la station Marcadet-Poissonnier. C'est sur la ligne 4, station fermée encore pour une bonne heure, d'après la RATP. Le trafic SNCF est perturbé, lui aussi, après un accident pas banal. Un TGV a percuté un troupeau de vaches à hauteur de Sablé-sur-Sarthe. Il a fallu dépanner le train très endommagé, puis dégager les cadavres des animaux. Le trafic a dû être détourné cet après-midi, ce qui a causé des retards conséquents sur le réseau SNCF dans tout le secteur. Et puis, autre souci, un train de marchandises a percuté un piéton près de Lunel, entraînant cette fois la coupure du trafic entre Montpellier et Nîmes. Et puis ce matin, la circulation du TGV Est a été perturbée en raison d'un orage. France Bleu Soir, il est 19h, presque 10, avant de vous donner des idées de cadeaux pour les maîtresses de vos enfants demain. On part sur le Tour de France. C'est le sprinter en vue de ce Tour 2017. Marcel Kittel remporte la 6e étape aujourd'hui à 3. 2e victoire d'étape pour l'Allemand qui devance le champion de France, Arnaud Démare. Cela dit, Anthony Rimbaud, ça ne change rien au général.
Oui, Christopher Froome n'était pas inquiet du tout pour son maillot jaune de leader aujourd'hui. C'était une étape taillée pour les grosses cuisses du peloton. Il a fallu attendre les derniers hectomètres de cette longue étape sous un soleil de plomb pour assister à cette bagarre tant attendue entre les sprinteurs. Le Français Arnaud Démare visait un 2e succès après sa victoire mardi à Vittel. Ça semblait bien parti pour lui. Le sprinteur de la FDJ s'est faufilé dans un trou de souris le long de la barrière. Il avait une petite longueur d'avance sur ses rivaux. Mais Arnaud Démare a vu revenir sur sa gauche, un boulet bleu et blanc. L'Allemand Marcel Kittel, impressionnante puissance dans les derniers mètres, a franchi la ligne en premier. C'est sa 2e victoire d'étape après celle à Liège, la 11e victoire de sa carrière sur la grande boucle. Alors Arnaud Démare n'est que 2e, mais le Français confirme sa très bonne forme sur ce Tour de France. Et surtout Arnaud Démare, il aura encore une chance de doubler la mise demain dans une nouvelle étape de plaine entre Troyes et Nuits-Saint-Georges.
Oui, effectivement. Merci Anthony. Rimbaud, demain 7e étape dans le vignoble bourguignon. Le peloton partira donc de Troyes, comme vous l'avez dit, pour une arrivée à Nuits-Saint-Georges. Ça fait rêver. À Wimbledon, maintenant, assez bonne journée pour les Français, Jean-Laurent Bernard.
Oui, c'est pas mal, avec les victoires de Gaël Monfils et d'Adrian Manarino, qui a battu le japonais Sugita. Une revanche d'ailleurs pour Manarino, qui avait été battu le week-end dernier par ce même japonais en finale du tournoi d'Antalya en Turquie. En revanche, Simon vient de s'incliner face à l'Autrichien Thiem. C'est un peu logique, Thiem est quand même au-dessus. Mm-hmm. Et puis chez les hommes toujours, victoire de Djokovic, Ferrer et Dimitrov. Federer, c'est ce soir.
Et pour les femmes?
Là, c'est moins bien, notamment pour la Française Kristina Mladenovic, qui a été battue 2-7-1 par l'Américaine Risqueux. Risqueux, qu'elle avait toujours battue jusqu'à présent 4 fois. Mladenovic l'a envoyée au tapis. Mmh. Cette fois, c'est Risqueux qui a sa revanche. Et puis la Tchèque Pliskova, numéro 3 mondial, une des favorites de Wimbledon, vient d'être éliminée par la Slovaque Rybarikova.
Merci Jean-Laurent Bernard. Nouvel épisode de canicule sur 8 départements du centre-est, de l'Allier au Jura et de l'Isère au Puy. Il fera très chaud jour et nuit jusqu'à dimanche. 8 autres départements sont en alerte pour de gros orages cette fois. Et ça inclut la région Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime, la Marne et les Ardennes. C'est la fin de l'année demain, la fin de l'année scolaire. Dernière journée de classe pour des millions d'écoliers. À 16h30, tout ce petit monde sera en grandes vacances et on les envie. Il ne reste plus qu'une journée donc pour dire merci et au revoir à la maîtresse parce que c'est la dernière mode depuis quelques années. Les enfants offrent des cadeaux. Il y a même un marché qui s'est bien développé. D'ailleurs, on peut faire confiance pour ça aux commerçants. La preuve à Mont-de-Marsan, François-Pierre Noël.
Dans cette papeterie montoise, il n'y a plus un seul mug ou porte-clés avec un message personnalisé pour la maîtresse. Il reste juste un sac en toile avec l'inscription « Super maîtresse » derrière la caisse. Véronique, la directrice du magasin, a tout vendu en 15 jours. Un engouement inattendu.
Jusque-là, c'était quelque chose qui n'était pas aussi remarquable que depuis 2 ans. Enfin, c'est beaucoup plus prononcé, oui.
Et certains enfants vont même plus loin. Avec l'aide des parents, ils se regroupent pour offrir des plus gros cadeaux. C'est le cas de Camille. Elle est en CE2 et sa maîtresse va être gâtée.
On a acheté un restaurant et une place de théâtre à Madrid.
Bon, ses élèves ne vont pas lui acheter un restaurant en Espagne. Avec l'aide de maman, on comprend mieux.
Pour voir le barbier de Séville.
Oui, voilà, pour voir le barbier de Séville, à Biarritz.
À quelques mètres de là, Lucas insiste auprès de sa mère pour aller chez le fleuriste dès la fin de l'école. L'élève de CP est plus classique, il va offrir des fleurs aux dames de cantine.
Alors, pour Véro, orange. Pour Caroline, les rouges. Le matin, je vais lui donner... quand il sera là.
Pour un cadeau personnalisé pour la maîtresse, il faut compter une 15 € pour un mug et 5 € pour un sac en toile.
Et oui, ça aussi, c'est devenu un budget maintenant. François, Pierre, Noël, France Bleu, Gascogne. Et puis Pierre-Henri est mort. Son nom ne vous dit peut-être rien. En revanche, vous connaissez sûrement ce morceau psychédélique de 1969. Ça s'appelle « Messe pour le temps présent ». Pierre-Henri est l'un des pères de la musique électronique. Les jeunes qui s'y connaissent le décrivent même comme le grand-père de la techno. Il est mort cette nuit à 89 ans. Allez, si vous aimez en apprendre sur l'histoire des grands tubes, restez avec nous. C'est Pop Story avec Marc Tosca après la météo.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.